France Inter.
Céline Asselot, bonjour.
Bonjour à tous. À la une, quand la musique se fait politique dans un pays plus que jamais divisé. Beyoncé a dévoilé cette nuit son nouvel album, ce qui est toujours un événement planétaire, sauf que cette fois, la superstar noire a choisi la country, le symbole par excellence de l'Amérique trumpiste. On écoute et on décrypte au début de ce journal. Il est parti à 7000 km pour mieux faire campagne. Emmanuel Macron a profité de son voyage au Brésil pour envoyer des messages aux électeurs, tout particulièrement les électeurs de gauche. On le verra dans un instant. L'actualité, c'est aussi la famine qui guette la bande de Gaza et les Palestiniens qui accusent l'armée israélienne de gêner l'arrivée de l'aide humanitaire. Le verdict attendu ce soir au procès de celui que l'on surnomme le violeur de Tinder. Les réquisitions ont été particulièrement sévères. Faut-il contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? On verra que l'idée fait doucement son chemin à l'Assemblée nationale. Et puis on ira humer les odeurs de cacao dans l'atelier d'un chocolatier très occupé, évidemment. Évidemment, à la veille de ce week-end de Pâques, un mot de vous inviter de 8h20, Ali
et
Marion.
Et comme tous les vendredis pendant un mois, gros plan sur les élections européennes du 9 juin. On reçoit les têtes de liste des principaux partis. Ce matin, Manon Aubry pour la France Insoumise.
Et juste après, Marie Toussaint pour les écologistes. Nos questions et les vôtres, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Sur la pochette, on la voit à cheval avec les Santiago, le chapeau de cow-boy, le drapeau américain, tout est symbole dans ce nouvel album de Beyoncé dévoilé la nuit dernière et qui dépasse bien largement les frontières de la musique. Bonjour Mathieu Culroux.
Bonjour.
Cowboy Carter, c'est le nom de cet album, est aussi et peut-être surtout un objet politique qui vient titiller une Amérique plus que jamais polarisée à quelques mois de l'élection présidentielle, d'autant que la superstar délaisse la pop pour s'accaparer la country à sa manière.
Oui, le nouvel album de Beyoncé, ce qui se présente un peu comme une radio texane avec des légendes de la country transformées en animateurs radio qui semblent adouber la chanteuse. C'est le cas de Willie Nelson, de Linda Martell, première chanteuse noire à connaître un succès dans ce style, la country. Et puis, il y a une certaine Dolly P qui autorise celle qu'elle appelle Honey Bee à reprendre son plus grand tube.
Hey Miss Honey Bee, it's Dolly P. Jolene, Jolene, Jolene.
Beyoncé qui reprend Jolene de Dolly Parton, tout un symbole Mathieu. Il y en a d'autres, des grandes reprises sur ce disque.
Oui, et celle-ci vient d'Angleterre, impossible de ne pas l'identifier immédiatement. Voilà Blackbird, très belle et sobre version du chef-d'œuvre de Paul McCartney, période Beatles. Mais le morceau dont tout le monde va parler aujourd'hui, c'est bien ce Too Most Wanted avec une certaine Miley Cyrus. Voilà, Beyoncé qui se paye la plus grosse vendeuse de singles de 2023. Beyoncé qui prouve avec cet album qu'elle est capable de briller dans tous les styles, y compris dans une musique considérée comme blanche aux États-Unis. La chanteuse texane qui secoue donc les bases de l'Amérique conservatrice sera-t-elle jouée par exemple dans les radios country très pro-trumpistes? C'est toute la question. Whitby, dont la prestation au Country Music Awards en 2016 avait été particulièrement critiquée. Voici donc d'une certaine façon sa réponse.
Bang, bang. The snap of my fingers, I'm finals. And I'm still on your head, cornrows.
C'est pas un album de country, c'est un album de Beyoncé. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Merci Mathieu Culon, spécialiste musique à la rédaction de France Inter.
Faut-il partir au bout du monde pour mieux parler aux Français?
Eh bien, ça semble en tout cas la méthode d'Emmanuel Macron, qui a profité de son déplacement au Brésil pour faire campagne pour les Européennes. Le chef de l'État, qui rentre aujourd'hui de son voyage de 5 jours en Amérique latine, tente de faire revenir à lui les électeurs de centre-gauche, ceux qui pourraient être tentés par la liste menée par Raphaël Glucksmann. À coup de petites phrases et de gestes symboliques, Maxence Lambrecq, vous avez suivi ce déplacement présidentiel.
Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d'un mariage. Je leur dis, c'en était un. Emmanuel Macron s'amuse de cette photo prise dans la forêt, main dans la main, avec Lula, qui a vite fait le tour du Brésil. Lui n'a pas été le visiter en prison comme Jean-Luc Mélenchon, mais l'a accueilli dans son bureau peu de temps après, et Lula s'en souvient. Il l'a rappelé hier soir. Le camarade Macron est ravi, le message est limpide, tout comme son câlin avec le cacique Raoni mardi soir.
Même courrier.
Il se montre écolo, ami de Lula, premier opposant à l'accord UE-Mercosur.
On demande à nos agriculteurs, nos industriels, des transformations historiques, des efforts incroyables. Si au moment où nous on fait ça, on dit par nos textes, on ouvre à des produits qui ne respectent pas du tout ces accords et il n'y a plus de tarifs, on est des fous.
Au chevet des agriculteurs, des pêcheurs en Guyane.
On va intensifier les destructions de navires qui vous font la concurrence.
Et pendant que sa tête de liste Valérie Ayer voit le président Zelensky à Kiev, ce que Raphaël Glucksmann voulait faire, il affiche à Brasilia sa détermination.
Moi je crois que quand on défend le droit international, la démocratie, il ne faut pas être faible.
Emmanuel Macron prévoit de s'impliquer encore davantage dans la campagne. Interview, lettres ouvertes, discours, le format n'est pas arrêté. Une seule conviction à l'Elysée, c'est celui qui a le plus envie, le plus faim, qui l'emporte en général.
Maxence Lambrec du service politique de France Inter. C'est un appel de plus à destination d'Israël. La Cour internationale de justice demande aux autorités israéliennes d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à la population civile sur place. La plus haute instance judiciaire de l'ONU s'inquiète de la famine qui s'installe dans l'enclave, dans le nord tout particulièrement, où les camions ont du mal à arriver jusqu'à la population et certains palestiniens affirment, image à l'appui, Étienne Monin, que l'armée israélienne empêche les distributions alimentaires.
Ce que l'on comprend avec cette vidéo tournée aux portes de la ville de Gaza, c'est que le chaos et les pillages sur les routes ont empêché les camions d'atteindre les communautés du nord. L'ONU a donc essayé de trouver une solution. Georgios Petropoulos dirige la coordination de l'ONU à Gaza.
On a réussi à faire en sorte que les communautés, les quartiers s'organisent. Ça n'a pas été facile. Le secteur est extrêmement dangereux. On ne sait pas combien de temps ça va tenir.
Les clans du nord de Gaza ont donc commencé à sécuriser les convois en coordination avec la police du Hamas. Mais d'après Abdelkader Saba, l'armée israélienne a ciblé des responsables. Il est journaliste dans le nord de l'enclave, joint par WhatsApp.
L'armée israélienne n'a pas apprécié cette situation. Elle a donc bombardé la plupart des entrepôts qui contenaient de la nourriture. Il n'y avait plus aucun moyen sûr de distribuer l'aide, comme l'armée ne permettait à personne de la sécuriser. Parce que lorsque la sécurité tentait d'être présente au carrefour proche de l'arrivée des camions, elle était bombardée.
Des coordinateurs de la sécurité et des responsables policiers palestiniens ont été tués par les Israéliens ces 15 derniers jours. L'armée affirme qu'elle n'impose aucune limite à l'aide humanitaire.
Étienne Monin, de la rédaction internationale de France Inter. Lui écope de 2 ans de prison pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. En Russie, un journaliste a été reconnu coupable d'avoir cherché à discréditer l'armée. Mirai Feldman devra purger sa peine dans une colonie pénitentiaire à régime sévère. Une nouvelle condamnation dans un contexte de forte répression envers les journalistes, les avocats, les militants qui osent critiquer publiquement le Kremlin. Et cette ambiance tendue à l'extrême, c'est aussi évidemment une conséquence de l'attentat qui a fait 143 morts la semaine dernière à Moscou. La Russie affirme avoir la preuve que les auteurs entretenaient des liens avec des nationalistes ukrainiens, des accusations que Washington qualifie de propagande absurde. Mais au-delà de la lecture politique, géopolitique de cet attentat, a-t-on suffisamment fait preuve d'empathie, de solidarité avec les victimes de cette attaque? C'est la question que posent les survivants du Bataclan. Beaucoup de points communs entre les deux attentats. Une salle de concert, un commando armé et des victimes civiles. De quoi raviver la souffrance des rescapés du 13 novembre, Sébastien Sabiron.
Arthur Desnouveaux préside l'association Life for Paris. Vendredi dernier, un copain du Bataclan, dit-il, lui envoie ce message. C'est chaud Moscou. Quelques mots qui le replongent dans le cauchemar vécu le 13 novembre 2015.
Les images étaient très très ressemblantes de ce que nous on avait pu vivre. C'est un horrible sentiment de déjà-vu. L'horreur recommence et on se sent attaqué soi-même.
Pourtant, cette fois, hormis quelques fleurs devant l'ambassade de Russie, pas d'émotion collective comparable à celle suscitée par les attentats de Paris, ce qui ne surprend pas. Arthur Desnouveaux.
On n'a pas entendu la voix des victimes moscovites et donc le grand public a du mal à se projeter et a du mal à exprimer sa solidarité envers des victimes qui en fait restent juste un numéro. On en reste à un degré d'analyse géopolitique et pas du tout souffrance individuelle.
L'attentat de Moscou ravive aussi les craintes d'une nouvelle attaque avec notamment cette menace endogène évoquée par le ministre de l'Intérieur.
On apprend qu'on a des jeunes adolescents radicalisés français qui sont prêts à frapper. Ces gamins-là devaient avoir 5, 6, 7, 8 ans à l'époque où on a été touché. On n'a pas été capable de ne pas les laisser se faire embrigader par Daesh dans les 8 années depuis les attentats du 13 novembre.
Ce qui nourrit, ajoute-t-il, un sentiment d'échec collectif à chaque nouvel attentat comme un cercle de violence impossible à briser.
Reportage signé Sébastien Sabiron.
Voilà 2 semaines qu'il fait face aux plaignantes et qu'il continue de nier en bloc toutes les accusations.
Le verdict est attendu ce soir au procès de Salim Berada, cet ancien photographe de mode accusé de viol et d'agression sexuelle. sur 17 jeunes femmes lors de séances photos à son domicile. Il avait contacté certaines d'entre elles via les réseaux sociaux, ce qui lui avait valu le surnom de violeur de Tinder. Ce matin, ses deux avocats vont plaider pour tenter de démontrer l'innocence qu'il clame depuis le début de l'affaire. Un exercice qui s'annonce difficile après les auditions des parties civiles et après les réquisitions de l'avocat général qui a réclamé 19 ans de réclusion criminelle, Charlotte Piri.
C'est une peine nécessairement sévère, a prévenu l'avocat général, qu'il faudra prononcer selon lui à l'encontre de Salim Berada ce soir. Car l'accusé de 38 ans, ancien photographe de mode à la méthode quasi industrielle, à coups de tableaux Excel et de phrases d'accroche type, l'accusé, qui nie formellement tout viol et agression sexuelle, est un homme d'une dangerosité extrême, requiert le représentant du ministère public. Dangereux, car il n'a aucune capacité d'introspection. Regardez-les, monsieur Berada, lance encore l'avocat général, avant de se tourner lui-même vers les bancs des parties civiles. Je vous rends hommage du fond du cœur. Des mots qui réchauffent, selon Sophie Régascon, avocate de victimes.
Je crois que ça leur a fait un bien fou, parce que c'est quand même le représentant de la société qui se tourne vers elles, les 17, là, serrées les unes contre les autres dans cette toute petite salle, leur dire à quel point elles avaient été importantes. Moi, je pense que c'est très important pour leur reconstruction, et grâce à elles aussi, et c'est vrai, c'est souvent pour ça que les victimes déposent plainte, pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Et ça, c'est des mots très forts pour une victime de se dire, bon, ben, j'ai fait tout ça, j'ai traversé tout ça, mais ça a pu servir à ce que peut-être d'autres ne vivent pas la même chose.
Et quel que soit le verdict prononcé ce soir par la cour criminelle départementale, Salim Berada n'en aura pas fini avec la justice, car il est encore sous le coup d'autres plaintes pour viol alors qu'il était sous contrôle judiciaire.
Charlotte Piret qui suit ce procès pour France Inter. Ce sont des plateformes en ligne qui permettent aux collégiens de consulter leur emploi du temps et où les professeurs et les parents d'élèves peuvent communiquer. Les messageries des ENT sont suspendues au moins jusqu'aux prochaines vacances scolaires, indique Nicole Belloubet. Ces espaces numériques de travail ont en effet été la cible depuis une semaine de piratage des dizaines de collèges, de lycées recevant via les ENT des menaces d'attentats. Il va falloir réinitialiser les comptes, sécuriser davantage l'accès à la messagerie, selon la ministre de l'Éducation nationale. Elles sont devenues le symbole de ce que l'on appelle la France moche. Un plan de transformation des zones commerciales a été lancé par le gouvernement. Hier, 74 projets ont été sélectionnés à travers la France et se partageront une enveloppe de 26 millions d'euros pour faire de ces zones commerciales des zones de vie où le logement et les espaces verts pourront trouver leur place au milieu des grandes enseignes et des parkings. Et dans tout ça, où sont les cabinets de médecins, les généralistes, les ophtalmos, les gynécos qui manquent à tant de Français? La désertification médicale est un problème bien identifié. Et malgré l'opposition des médecins, certains parlementaires se disent désormais prêts à envisager une révision des règles d'installation, Victor Dolande.
En deux ans, Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, a déjà déposé 3 propositions de loi sur la régulation des médecins pour leur installation. Des propositions retoquées à chaque fois, mais il n'abandonne pas et prépare avec son groupe transpartisan une 4e version du texte.
Toutes les autres professions de santé obéissent à des règles pour leur installation. Les pharmaciens, ça fait des dizaines d'années qu'ils ne s'installent pas exactement là où ils veulent. Cette régulation, elle existe aussi pour les infirmières, elle existe aussi pour les kinés, pour les chirurgiens dentistes. Donc qu'est-ce qui nous interdit de mettre en œuvre une régulation pour les médecins? À notre avis, rien ne s'y oppose.
La contrainte pour les médecins ne doit plus être un tabou pour Frédéric Meunier, député LR de la Corrèze, qui vient de déposer une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux.
Peut-être que les tabous qui existaient, ou peut-être un conseil de l'ordre trop rigide, eh bien au bout du bout, ce sont les patients qui sont pris entre deux étaux et qui n'y arrivent plus. Il faut qu'à un moment donné, il y ait plus de souplesse. Et malheureusement, cette souplesse-là devra passer par plus de fermeté sur des installations qui devront être plus ciblées.
Pour anticiper l'opposition des médecins, ces parlementaires estiment que la régulation de l'installation n'est pas la seule solution pour lutter contre la désertification médicale, mais bien une idée à essayer.
Victor Dolande, spécialiste santé à la rédaction de France Inter.
Et puis, ce n'est pas forcément recommandé par les médecins, mais c'est le week-end où les chocolatiers réalisent jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires.
Et désolé pour ceux qui préfèrent la version poétique où ce sont les cloches qui viennent semer les œufs en chocolat un peu partout dans le jardin. Les fêtes de Pâques, c'est surtout économique. Une période cruciale pour les acteurs de la filière du chocolat qui font face cette année à une flambée du cours du cacao. Les prix s'en ressentent dans les rayons et la concurrence est rude entre les chocolatiers qui rivalisent d'inventivité et de technicité pour attirer les gourmands. C'est le cas par exemple à Amiens où Nicolas Hague n'a pas quitté son atelier ces derniers jours, Lison Bourgeois.
C'est ici, entre les chocolats qui fondent et ceux qui refroidissent dans les coques, que la magie opère.
Le chocolat, on le fait fondre toujours la veille pour le lendemain. Il y a à peu près 12 heures de fonte. Et puis après, il y a tout le travail de la mise à température du chocolat pour le travailler, le faire descendre à une température bien précise.
Et attention, gare à la gourmandise en cours de préparation.
J'ai assez goûté.
Parce que là, ça sent super bon chez
vous
quand même.
Ah bah, il y a une odeur qui est imprégnée. Même nous, hein, on s'imprègne de cette odeur. Donc voilà.
Face à un œuf de 30 cm, Nicolas Hague retient son souffle.
J'aime bien ces moments de silence.
Il y dépose délicatement de toutes petites pièces en chocolat.
Et cette année, je pense qu'on sera à peu près à 4000 pièces. Des petits sujets de 5 cm, comme des pièces de plus de 50 cm. Auparavant, on habituait nos enfants à déguster du chocolat au lait. Et maintenant, on les met aussi à des chocolats beaucoup plus fins, noirs. Donc voilà, là ça y est, l'œuf est fini.
Il est prêt à être récupéré par les cloches.
Exactement, elles sont généreuses cette année, les cloches.
Une gourmandise de presque 1,4 kg, 2 heures de travail et vendue une centaine d'euros en boutique.
Voilà pour ce reportage de Lison Bourgeois de France Bleu Picardie. Alors ça donne faim, c'est vrai, mais il est encore tôt, vous pouvez commencer par le café avant d'attaquer le chocolat.
Mais non, il n'y a pas d'heure pour le chocolat. C'était le journal de Céline Asselot. Il est 8h16 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Céline Dacosta, pour aller chasser les œufs, il est un peu tôt, quoique, encore de la pluie et du vent en tout cas.
Oui, c'est vrai, avec un ciel gris, des averses toute la journée sur un axe Aquitaine-Grand Est. Les pluies les plus fortes seront pour le sud de l'Aquitaine. Elles prendront même un caractère orageux. En fin de journée, de part et d'autre de cette bande pluvieuse, ce sera mitigé. Au nord, une alternance de nuages, quelques éclaircies, mais alors timides. Et des averses qui vont se multiplier dans l'après-midi avec un vent qui faiblit par rapport à ces derniers jours mais qui reste bien présent. On est toujours dans le siège de cette perturbation, cette tempête Nelson qui va encore apporter des vents forts sur le quart sud-est. Des rafales jusqu'à 100 km/h dans la vallée du Rhône et sur les reliefs. Le Rhône et la Loire sont toujours en vigilance orange pour ces vents violents. On restera au sec sur ce secteur avec un soleil qui sera voilé toute la journée sauf sur les Cévennes où les pluies vont déborder du massif central.
Mais c'est un vent qui apporte de l'air chaud.
Oui, c'est vrai. Le thermomètre va bien grimper à l'est et au sud, 17 à 25 degrés, 12 à 18 pour les autres, ça c'est pour cet après-midi. Plus frais ce matin sur la partie nord, 6 à 10 degrés, 11 à 17 déjà plus au sud.
Merci Céline Dacosta, il est 8h17 sur Inter, géopolitique.